Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque semaine et vous remercie de votre fidélité hebdomadaire. J'ai le plaisir de recevoir trois femmes, elles sont dynamiques, elles sont porteuses d'un très beau projet, elles vont nous en parler. Je reçois donc Nissa, Amina et Sama. Bonjour à toutes les trois. Elles vont parler pas d'une seule voix, mais chacune à leur tour, autour d'un projet qui les a fait se rencontrer, en tout cas, qui s'appelle Banlieusard Attitude. C'est Nissa qui me reprend. Donc Nissa, vous nous présentez ce qu'est le projet, que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Hein. Banlieusard, comment est né ce projet ?
Alors, l'idée du projet Banlieusard Attitude, c'est tout simplement depuis cinq bonnes grosses années, via l'association Force Citoyenne et le mouvement La Révolution est en marche, on lutte à l'échelle nationale et souvent dans les quartiers, dans les cités, en banlieue.
Toutes les trois, vous êtes de quel quartier d'ailleurs, justement ?
Alors, moi, je suis de Paris. Des quartiers, il y en a aussi à Paris. Hein.
Oui, bien sûr.
Et vous ? Moi, je suis de Seine-et-Marne, avant Sud-Seine-et-Marne.
Et moi, je suis de Bagnolet, dans le 93.
Ah. Voilà. Les périphéries de Paris, là aussi. Mais les quartiers sont là où ils sont, effectivement.
Exactement.
Paris et la région parisienne, ou dans toute la France, puisque vous rayonnez dans toute la France, vous l'avez dit.
Voilà. Donc, on s'est rendu compte, après, pendant ces cinq longues années de lutte et de combat, à accompagner des personnes qui nous sollicitaient, que les quartiers sont vraiment délaissés. Ils sont vraiment délaissés par les institutions. Enfin, quand on sollicite, que ce soit la municipalité, les préfectures, par exemple, un problème de logement, on se retrouve souvent face à un rideau de fer. Donc, on a tout simplement décidé, via Banlieusard Attitude, de créer, si vous voulez, notre propre institution et de venir directement en aide aux banlieues. Voilà.
Mais de créer sa propre institution, en même temps, quelle légitimité vous pouvez avoir ? C'est important, c'est complètement important ce que vous faites, parce qu'à un moment donné, il faut se prendre en main. Si les institutions ne les écoutent pas, effectivement, vous décidez de vous prendre en main et de mener un combat de lutte, voilà, pour ce droit au logement, pour lutter contre les discriminations. Mais quelle force vous avez pour ça ? Pour interpeller le politique, justement ?
Bonjour, bonjour Sama. Donc plusieurs choses, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs tentatives avortées ou pas, hein, de constitution, de collectifs, d'associatifs, d'observatoires aussi des quartiers qui ont été montés par la majorité présidentielle, qui reste toujours un peu plus spectateur qu'acteur. Les vrais acteurs engagés sur les terrains sont pas forcément ceux qui sont plus mis en avant ou plus dotés de subventions, de locaux et de moyens. Avec la concertation nationale, il y a eu une espèce de nomenclature de ceux qui étaient engagés au niveau des quartiers, avec une liste à la Prévert de tous les acteurs et toutes les associations. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il manque un outil structurant opérationnel qui permettra de faire un levier auprès des politiques, mais pas que, auprès des financements potentiellement pour pérenniser des actions dans les quartiers. Attendre éternellement que des fonds publics, est-ce que c'est la seule voie ? Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs sociaux qui se lancent, donc il y a de l'impact et de la valeur ajoutée qui se fait. Aujourd'hui, on aimerait qu'elle profite au plus grand nombre et à l'ensemble des quartiers. Donc structurer quelque chose, on ne sera pas les premiers, peut-être pas les derniers, mais on va essayer de structurer une instance, un portage financier, associatif, avec également Sama qui parlera pour son coup, de réseau aussi, parce que c'est ce qui manque aussi beaucoup, et puis d'intermédiation pour que les projets puissent aboutir. Enfin, d'interpellation des politiques pour qu'on passe de la politique de prévention et de sécuritaire qu'on a aujourd'hui à une politique réellement curative. On est vraiment dans un état de désespérance au niveau des quartiers où cette priorité doit être inscrite à l'agenda politique et voilà, créer un espace d'expression où tous ces acteurs engagés pourront également être mis en avant et contribuer à ce débat public.
Alors justement, sur le fait que vous vous organisiez pour que vous contribuiez au débat public et politique, vous interpellez-vous les politiques dans les villes où vous êtes, ou à Paris ou à Bagnolet ou dans votre région, comment ça se passe ? On comprend bien dans cette introduction que vous vous organisez parce que dans les quartiers, parce qu'on n'est pas entendu, parce qu'on ne nous reconnaît pas, et avec à la fois notre singularité, on y reviendra, hein, issue de l'immigration, les questions de l'islam dans les quartiers, etc. Il y a toute cette indifférence, on peut la nommer ainsi, puisque j'ai relevé le mot aussi dans un de vos textes, parce que vous avez écrit des textes, vous avez réfléchi. Hein. Il y a du contenu, hein, dans ce que vous nous proposez. Mais j'ai juste envie de dire, il faut aussi interpeller les... À nouveau, vous l'avez fait sans doute, mais à nouveau, les politiques en place, c'est important ça.
Alors en fait, sur la politique des quartiers, c'est quelque chose qui est transversal. Ça touche aussi bien la politique de l'habitat, la politique jeunesse, la politique de l'emploi, la politique d'insertion et bien des choses. Donc c'est vrai que chacun a son niveau à essayer. Je ne vais pas dire qu'on est les premiers ou les derniers. Les premiers échelons de proximité, c'est les élus locaux. C'est aussi des fois le préfet, le délégué du préfet à l'égalité des chances. Il y a des rencontres, mais pas tous ont des retours déjà. C'est assez difficile. Et puis c'est selon le rapport de force qu'a chacun. Donc l'idée, c'est de sortir de ce maillage un peu essaimé où chacun fait de son côté à une quelque chose de structurant où, comme ce qui s'est passé pour les acteurs sociaux, ils ont créé une fédération des acteurs sociaux, ils ont fait un conglomérat de ces acteurs pour voir une instance qui parle d'égal à égal avec les acteurs publics et politiques. Aujourd'hui, le fait qu'on soit maillé comme ça et un peu par îlot ne crée pas ce rapport aujourd'hui de façon institutionnelle. Et si on veut être contributeur, effectivement, bah, appeler les associations à nous rejoindre, appeler les acteurs politiques à ce qu'il y ait une génération politique qui émerge des quartiers aussi demain que tous les acteurs opérationnels soient aussi parmi la contribution de ce débat. Bonjour.
Et ça, vous voulez ajouter quelque chose justement sur le terrain, comment ça se passe? Parce que on voit, à Beurre FM, on a l'occasion d'en recevoir des acteurs locaux, des élus locaux qui viennent avec des jeunes, des associations. On sent que quelque part, ça bouge un petit peu. Ça frémit peut-être, mais ça bouge quand même un petit peu. Donc, on peut retenir que il y a des expériences qui sont intéressantes. Oui. Ce que vous faites en raison, c'est aussi pour savoir ce qui se passe de mieux ailleurs que ce qui se passe de pas très bien par cette région parisienne, par exemple. Nissa,
tu veux rajouter quelque chose?
Amina,
Non, je félicite, on l'a vu.
Concrètement, sur les interrogations, on reviendra dans une deuxième partie sur justement toutes vos... Il y a 48 préconisations ou propositions qui sont des interrogations que vous avez sur les inégalités, sur le travail, le droit au travail, sur l'habitat, vous en avez parlé, mais avec des mots qui sont forts, des mots de dire que voilà, faut mettre en place une politique de construction de logements publics.
Exactement.
Parce que c'est vrai que dans des quartiers, il n'y en a pas suffisamment. Donc voilà, tout ça, c'est aussi à interpeller le politique, puisque vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas élu. Donc vous êtes déterminée, militante, mais dans la réalité, il faut aussi que les politiques vous entendent avec ces propositions.
Alors je suis élue sur ma ville, je suis président d'association, mais je suis également élue sur ma ville en Seine-et-Marne, et j'étais membre des quartiers politiques de la ville sur...
Vous êtes actuellement élue.
Je suis également élue sur mon deuxième mandat, mais ça n'empêche pas que même nous, les élus locaux, on n'a pas accès directement. La ministre, Madame Laës, ça a été plusieurs fois que je l'invite, j'ai pas de retour. Le préfet, sous-préfet d'égalité des chances, une fin de non-recevoir. Pareil pour nos actions politique de la ville, donc on n'a pas ce rapport-là isolément toujours. Donc se conglomérer et structurer quelque chose pour pouvoir avoir un espace d'échange, c'est important. Ce que vous avez dit sur les thématiques, c'est aussi très important. On n'est pas les seuls à les porter. On aimerait juste que il y a une émulsion dans les quartiers. Il y a vraiment des collectifs, des associations, des initiatives qui ont permis justement ce dernier kilomètre social qui s'est fait pendant la crise. Il y a vraiment des initiatives qu'on félicite. Après, il y a des combats, il y a des luttes aussi qu'on accompagne. Demain, Nissa va également défendre des copropriétaires au tribunal de Bobigny. Voilà, il y a plusieurs luttes qui sont engagées et des initiatives qu'on aimerait se voir pérenniser. Le nerf de la guerre, c'est le réseau et les moyens. Comment est-ce qu'on fait pour qu'opérationnellement ces moyens arrivent à nous? Comment est-ce qu'on fait pour que ce débat il s'inscrit vers les orientations qu'on aimerait avoir aboutir sur le territoire? Sur le logement, on est dans un mandat où il y a une très infériorité de construction de logements sociaux. On a des tolérances mises par les lois qui sont acceptées au niveau du Parlement. La dernière 3DS donne encore des tolérances pour la construction des logements sociaux dans les délais. Donc les villes pourraient encore rester dans des retards de construction de logement social. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de construire du logement social? C'est de l'accessibilité à un logement à un prix décent. C'est quelle qualité de parc locatif on veut, quels moyens on donne pour la rénovation énergétique. La rénovation énergétique ne doit pas concerner que certains et pas d'autres. Donc, toutes ces thématiques-là, on invite aussi les candidats politiques à y répondre dans un prochain débat politique qu'on sera amené à mener mi-mars, parce que l'enjeu de la fenêtre de cette élection est une opportunité de poser aussi nos enjeux.
On y reviendra dans une deuxième partie, justement, sur l'interpellation
aux
candidats et candidates dans ces élections présidentielle. Sur les moyens de fonctionner, pas les moyens financiers, on y reviendra, mais sur les moyens humains, vous êtes nombreux à porter ce projet, Nissa?
Alors le projet...
Vous êtes forte, mais en même temps, il faut être nombreux quand même pour être entendu.
Ça va, on est très très bien entouré. Donc le projet, il est tout neuf, même si nous, on lutte depuis 5 ans. Le projet Banlieues Arts Attitude, il y a eu la première réunion publique qui a eu lieu le 3 février. On a pu réunir 65 personnes Donc dans les 65 personnes, on a eu quand même des belles personnes qui étaient là. On a de la vraie mixité sociale qui arrive des quartiers, comme je t'ai déjà expliqué. Donc il y a des femmes de ménage, des mères au foyer, des docteurs en économie. On a eu aussi des élus de l'opposition, des élus comme Amina. On a des psychologues, vraiment de très belles personnes qui étaient présentes. Il y a eu une deuxième réunion de travail qui a eu lieu la semaine dernière. Et on était une bonne quinzaine, hein, parce qu'on a choisi le mauvais jour. Hein, il y avait les conseils municipaux, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui a pu assister à la réunion. 15 bonnes personnes. On a déjà posé les prochaines réunions et les prochains travaux qu'on va effectuer, tout simplement.
D'accord. On aura l'occasion de vous suivre, parce que ça me semble important de voir un peu ce travail sur le terrain que vous menez. Pour l'instant, on va vous retrouver après une pause et nous allons... voir avec Sama, justement, quel est l'engagement de Sama. On vient d'entendre Nissa et Amina, mais avec Sama, l'engagement qu'elle porte dans ce projet Banlieusard Attitude. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre comme chaque dimanche. Je rappelle que je reçois trois femmes ce dimanche matin, Nissa, Amina et Sama, et nous parlons de leur projet qui s'appelle Banlieusard Attitude, qui est un projet qu'elles ont porté dans différents quartiers de Paris et de la région parisienne autour d'une volonté de mettre en place des questions de solidarité nationale, d'environnement, d'économie éthique et aussi de solidarité internationale, puisqu'il est question aussi de la culture de la paix et aussi de l'émancipation. Et ça tombe bien parce qu'on est bientôt au mois de mars et on parlera avec vous du féminisme et de l'engagement de l'égalité femmes-hommes. Sam, vous allez nous parler d'une ère de la guerre qui est les moyens de mener les actions que vous allez porter dans ce projet Banlieusard Attitude. On a rappelé tout à l'heure qu'il fallait peut-être pas toujours s'affranchir des institutions. Il fallait aussi avoir une certaine autonomie, j'imagine, hein, pour être libéré de ces obligations au travers des institutions. Quoique l'argent des institutions, c'est votre argent aussi, hein. C'est l'argent public qui vous appartient, qui nous appartient. Donc, il faut pas s'en défaire non plus, mais d'avoir une autonomie, c'est important. Allez-y.
Bonjour à tous. Effectivement, pour rebondir sur l'autonomie, en fait, le but, c'est vraiment de, donc fédérer un max d'associations ou d'entrepreneurs autour d'une sphère d'influence, donc qui est Banlieusard Attitude, afin que les associations de quartier deviennent indépendantes et qui sortent du clientélisme qui gangrène en fait nos quartiers. Cette indépendance là, elle passe par l'autonomie financière et matérielle. Pour ça, on force les moyens, les besoins de chaque assos pour subvenir, pour qu'ils subviennent en fait eux-mêmes à leurs besoins. Moi, mon pôle, c'est vraiment, il y a un accompagnement sur définir son idée, savoir où chercher les subventions en ayant vraiment un dossier concret et une réelle motivation, faut que ça aboutisse à quelque chose, en fait, qu'il y ait quelque chose de solide derrière. Et voilà, toujours avoir... Il y a plein de choses qui se passent dans le quartier. Je suis désolée, je parle un peu mémo, mais il y a plein de choses qui se passent un peu dans les quartiers. Enfin, il y a des mamans, voilà, qui veulent se débrouiller d'elles-mêmes, qui savent faire plein de choses. Parfois, ça coupe un peu la motivation des gens. Ils sont dans un engouement, ils ont envie de sortir dans leur zone de confort, créer quelque chose où ils s'épanouissent. Et on a toujours, en fait, ce frein-là où ils arrivent pas à se souvenir. Enfin, ils arrivent, ils montrent leur dossier qui est bien solide, mais qu'ils arrivent dans cette barrière. Pas. Exactement. On les écoute pas. Ils disent, moyens financiers, ça bloque toujours. Voilà. Après, il y a pas mal de petites... Enfin, il faut les connaître. Il y a pas mal de petites zènes. Mais voilà, l'idée de Banlieusard Attitude, c'est vraiment...
Accompagner
ces personnes-là à l'autonomie, à pouvoir subvenir à leurs besoins et sans forcément qu'ils aient ce mur de... Enfin, que ça soit un frein dans leur projet.
Vous voulez ajouter quelque chose, Amina, sur ces questions à la fois financières qui sont politiques? Je m'adresse à vous parce que vous êtes élue dans votre ville. Vous voyez, vous avez une mandature. Qu'est-ce que vous avez comme délégation
à... Précédemment, j'étais maire adjointe à la vie associative et petite enfance. Donc, on voit tout ça très rapidement,
les écueils. Et vous avez,
sur ce que Sama va nous mettre en place dans Banlieusard Attitude, sur l'accès aux moyens, c'est le nerf de la guerre. Pendant la crise, il y a eu deux inégalités croissantes qui ont été frappantes. Une inégalité de revenus, mais celle qui a surpassé c'est une égalité des rentes, une égalité de patrimoine. Ça impacte nos associations, nos acteurs associatifs et les acteurs engagés, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une inégalité de patrimoine, on ne peut pas investir de la même façon. Mais quand je dis patrimoine, il y a deux patrimoines. Il y a le patrimoine financier et le patrimoine de réseau. Aujourd'hui, on a besoin de réseauter, on a besoin de faire des choses par le biais de communication, de réseau, etc. Donc l'idée, c'est d'accompagner les porteurs de projets vers la finalisation de leur projet, qui ne se démotivent pas, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que qu'un projet soit qualitatif, pour qu'il soit pérennisé, pour qu'il soit à fort impact sociétal, social, et qu'on arrive vraiment à lever des obstacles, eh bien, il faut effectivement les moyens qui vont avec. Il faut aussi que l'impact soit là pour que les gens soient au rendez-vous, soient présents lorsqu'on monte les actions, qu'il y ait un public cible qui se mobilise également, qui soit conscientisé. Et puis, effectivement, qu'on se rende compte qu'on peut créer une valeur ajoutée des quartiers, c'est-à-dire qu'on arrête de le voir toujours d'un côté assez négatif, mais ce regard doit changer aussi, ce croisement de regard de ce qui est possible et les potentiels, avec aussi une réussite dans les quartiers, dans les projets et dans ce qu'on pourra en faire de demain. Voilà. Et Sama, c'est son cœur d'activité, déjà, professionnellement. Ouais. Donc, elle mettra à cœur tout ça dans le Malheur Attitude. Donc, venez avec vos projets pour qu'on puisse faire du meilleur.
Voilà. Alors, pour que vous rencontriez des associations, vous avez aussi quand même eu des orientations. Je les ai là sous les yeux. C'est pas rien, des orientations, des préconisations, des souhaits, des désirs, des volontés. Appelons ça comme on veut. En tout cas, il y en a 48 qui sont là énumérés et qui portent les valeurs que vous voulez défendre. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Parce qu'on va pas toutes les citer, les 48, mais qu'est-ce que vous avez? Moi, j'ai noté qu'il y avait vraiment le travail, le logement, vous en avez parlé aussi. Il y a vraiment des... Tout ce qui est économie, tout ce qui est autonomie, c'est quelque chose d'important pour vous dans ce que je lis. Puis de démocratie aussi, voilà, la participation. Qu'est-ce que vous voulez voir présenter ce matin dans votre réflexion, dans votre champ de...
La pierre triangulaire, je dirais, c'est un peu la citoyenneté et la démocratie, parce qu'aujourd'hui, on voit la démocratie comme les droits civiques. Mais aujourd'hui, on voit que ça se décline dans tout. C'est également la citoyenneté économique, avoir accès à l'emploi, accès à la formation, à l'émancipation. Parce qu'on a beaucoup parlé d'émancipation, mais elle peut être réelle que si derrière, on a construit des individus purs. Si dans les quartiers, on établit que c'est juste un sas de passage de personnes qui sont en précarité, ou est-ce qu'on établit que c'est des lieux où on peut bien y vivre, on peut bien évoluer, on peut bien y manger, on peut bien y entreprendre? Et ben, ça, c'est la citoyenneté dans tous ses pans. Citoyenneté économique, citoyenneté bancaire, citoyenneté de la formation, la citoyenneté écologique et la solidarité. Et nous, ce qu'on a à cœur également, ce qui nous raccroche, c'est dire qu'on veut de la cohésion nationale. On veut que les quartiers soient un territoire à part entière et qu'il ait les mêmes droits et pas en deçà.
Qu'ils soient pas relégués
à du séparatisme urbain, pas relégués à l'espace qui est des fois une ville dans la ville. À force de vivre comme ça, c'est des fois des quartiers où il y a 20 000, 30 000 habitants. C'est des villes, des fois, dans la ville. Mais où il y a un autre mode de fonctionnement, un autre rythme de fonctionnement et c'est entériné. Dire qu'on veut sortir et que la ville ne soit pas à part. Donc quand on voit certains candidats qui nous parlent de ça aujourd'hui, mais qui en même temps l'ont construit, il faut savoir qu'en Ile-de-France, on est parmi les plus mauvais élèves sur la construction de logements sociaux, on est parmi les plus mauvais élèves dans la mixité sociale, on fait beaucoup de séparatisme urbain. Eh bien, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'accès à l'emploi lorsqu'on doit se déplacer. Ça a des conséquences sur l'accès à la formation. Ça a des conséquences sur l'entrepreneuriat, sur l'écologie. Et aujourd'hui, pour sortir de ça, c'est-à-dire que Banlieues Arts Attitudes, il veut, et on veut en fait, que remettre de l'inclusion, remettre de la centralité de tous les territoires et pas seulement des territoires à part.
Voilà. Et dans les exemples que vous voulez citer, il y a sur la société l'émancipation, par exemple. On est à quelques jours du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Donc, on est dans un pays où l'égalité femmes-hommes existe, l'égalité salariale en tout cas, puisqu'il y a une loi qui a été votée sur un travail égal, salaire égal. En réalité, elle n'est pas appliquée. Donc, il y a une volonté quand même dans votre démarche que de voir cette vraie égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Oui, il est vrai qu'avec la crise, on s'est rendu compte qu'on avait les premiers et les derniers de cordée apparemment, mais tous les travails sont utiles, mais les travails qui ont été très utiles encore plus pendant cette crise où il y a eu du confinement. On se rend compte que c'est des fois des métiers qui sont moins bien qualifiés, mais aussi moins bien rémunérés. Et pourquoi? Parce que c'est la politique salariale et c'est beaucoup des femmes, impactées. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de dire qu'on veut effectivement un travail qui rémunère à sa juste valeur, même travail, même conditions de travail, même trajectoire d'évolution. On sait qu'aujourd'hui, les femmes ont moins d'évolution de carrière, ont moins bonne rémunération. Je crois que la Suède l'a fait, avoir un travail qui rémunère à juste prix, avoir des trajectoires qui permettent aussi que des femmes puissent être aussi dans des évolutions de carrière, même si elles ont des enfants, c'est pas une moins-value, au contraire, c'est une plus-value, on fait un effort à la nation, et que ce soit aussi pas quelque chose qui impacte dans les évolutions de carrière. Et tout ça, en fait, on se rend compte dans les quartiers, les femmes sont très très engagées, sont très très une cheville ouvrière pour activer que demain il y ait des petits soldats qui soient tournés vers le bien, la bienveillance, vers une construction d'un monde meilleur, parce qu'elles sont remplies d'optimisme. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas. Je dis qu'aujourd'hui il faut aussi ces potentiels-là, endormis ou pas, permettre de les réactiver. Mais aussi si la société dans contrepartie donne la rétribution du travail fait, parce que quand on travaille et qu'en même temps qu'on élève et qu'en même temps on s'engage, je pense qu'il faut aussi que les égalités salariales font partie de la priorité en rigueur des choses à reconnaître.
Oui, important. Puis l'égalité, ça peut être aussi on travaille, on élève, mais il élève aussi.
Exactement.
Femme, homme, il peut élever aussi. Exactement. Et puis il peut porter aussi. Ça fait partie un peu de cet engagement que vous pouvez aussi appeler. On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de notre rencontre. Voyez, le temps passe vite. Vous énumérez tout votre dynamisme et toute votre volonté. Mais je crois qu'il y a un volet important qu'on va évoquer, c'est celui du racisme et de l'islam aujourd'hui en France, parce qu'il est aussi stigmatisé. Et c'est important de souligner qu'on existe à part entière avec notre diversité, avec nos cultures, avec religion, n'en déplaise à certains. Je vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre comme chaque dimanche. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nissa Amina Sama, une émission au féminin dans l'engagement pour une société plus juste et égalitaire. C'est de ça que nous parlons. En tout cas, la société étant les quartiers où elles habitent, toutes les trois, mais où sur le territoire national, on s'aperçoit bien qu'il y a des inégalités, c'est de ça qu'on a parlé. Et votre projet Banlieusard Attitude, dont nous parlons ce dimanche matin, toutes les trois, c'est un projet qui va aussi porter les valeurs dont nous avons parlé, mais aussi des dénonciations. Le racisme, montrer du doigt l'islam. Comment vous réagissez-vous quand aujourd'hui on est en campagne électorale présidentielle, il y a des propos racistes sur le dos de l'immigration, sur le dos de la religion. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites de tout cela, Nissa?
Bah nous on dit tout simplement que les personnes qui parlent de l'islam aujourd'hui ne connaissent pas réellement l'islam. D'ailleurs, quand on voit les politiques sur les plateaux télé et qu'on invite en fait des personnes qui ne sont pas musulmans, qui ne vivent pas dans les quartiers, qui viennent parler en notre nom, donc enfin je trouve que c'est pas du tout logique. Aujourd'hui, l'islam, on entend parler de l'islam matin, midi et soir. On a l'impression que la campagne électorale est faite sur le dos des musulmans, tout simplement. Nous, on demande...
Le droit de l'immigration aussi.
De l'immigration, oui, parce que de toute façon, quand on stigmatise, quand on fait toute cette stigmatisation concernant la banlieue ou l'islam, pour moi, c'est du pareil au même, en fait. Puisque pour eux, la banlieue égale personne de confession musulmane, tout simplement.
Et il y a la sécurité, il y a le terrorisme, il y a tout ça.
Voilà, donc tout est mélangé. Ils ne cherchent pas vraiment à savoir qui nous sommes. Donc pour eux, c'est soit on est français, soit on est musulman. Ils ne comprennent pas qu'on est français de confession musulmane et que ça peut pas changer. Voilà, comme on peut être français de confession juive ou qu'on peut être français catholique ou de confession chrétienne. Voilà, chacun a sa religion. Ça nous empêche pas de vivre tous ensemble, tous en bonne harmonie dans ce beau pays.
Et mais pourtant, il y en a qui disent que l'islam n'est pas compatible dans la République.
Bah, je dirais que c'est juste pas compatible dans leur tête, en fait. C'est qu'ils sont tout simplement fermés. Pourquoi, je ne sais pas. Ils ont peut-être eu de mauvaises expériences dans leur vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont fermés. On m'a souvent dit, on parle trop de l'islam, c'est l'islam par-ci, l'islam par-là. Je dis, mais c'est vous qui en parlez, en fait. Moi, je suis de confession musulmane et je crie pas ma religion à tout va dans la rue. Donc, je suis musulmane, mais je suis aussi française. Je vis en France. Je contribue à l'économie en France. Je pense juste que en France, il y a d'autres réalités aujourd'hui, il y a d'autres problématiques à régler, et je ne sais pas pourquoi
pendant qu'on parle de l'islam, on parle pas des autres problèmes, justement.
Exactement. Donc je pense que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, comme on dit, c'est ça, tout simplement.
Amina, politiquement, vous voulez ajouter quelque chose sur effectivement le regard qu'on porte sur l'islam dans les quartiers, puis de manière générale aujourd'hui en France, à chaque fois qu'on évoque l'islam, c'est avec violence.
Oui, je suis assez attristée de la qualité du débat politique de cette élection présidentielle, mais pas étonnée. On en parlait, on voyait venir très rapidement, 2-3 mois avant les élections, le triptyque immigration, quartier, islam. À chaque fois que les élections présidentielles arrivent, l'inversion de valeurs et des priorités arrive. Au lieu de nous parler du pouvoir d'achat, de la crise sociale et sociétale, on va nous parler de ce qui fait peur, ce qui fait frémir et ce qui fera peut-être union, peut-être pour eux, dans leur électorat conservateur ou conservatisme ou rétrograde. C'est une cour d'arrière-garde, j'ai l'impression. Et je rejoins Anissa quand elle dit que c'est des personnes qui sont dans leur tête loin des sujets des musulmans ou des sujets de l'immigration. Quand on voit le Premier ministre canadien qui, lorsque c'est le mois de Ramadan et que c'est l'Aïd, il souhaite un bon mois de jeûne aux musulmans, ou il souhaite une bonne fête. Nous, au niveau national, en France, c'est un désert de prise de parole politique. À croire qu'on ne peut pas souhaiter à les musulmans une bonne fête de l'Aïd, qu'est-ce que ça d'anti-républicain, excusez-moi, qu'est-ce que ça retire à nous, élus, de souhaiter à des confessionnels, des membres co-religionnaires, de passer une bonne fête, excusez-moi, ça ne retire rien de républicain. La République, c'est aussi dire qu'il y a le droit de respecter les religions de chacun, ça ne veut pas dire qu'on force les gens à reconnaître ou à faire allégeance. Maintenant, c'est un sujet aussi qui pose problème parce que c'est éminemment, c'est la politique politicienne, c'est pas la vraie politique où on résout des solutions, on apporte des solutions. Sur l'immigration, un coup, tantôt on va nous dire que ce sont des personnes très stigmatisantes, de façon très stigmatisante, très peu qualifiées, dont on n'a pas besoin. Un coup, on va nous dire que c'est des personnes très qualifiées, qu'ils ont été parmi les médecins pendant la crise, qui ont été parmi les chercheurs, qui ont été et qui commencent.
12% des médecins en France sont d'origine étrangère.
Exactement. Et aujourd'hui, on va nous dire qu'on va réduire ou va augmenter les prix des droits d'inscription des élèves étrangers, dont on a besoin, mais on ne veut pas se l'avouer. Le problème, c'est qu'il y a le retour du bâton. Ce que nous semons, nous allons récolter. Cette politique de, j'ai l'impression que c'est la surenchère entre Zemmour, Le Pen, même l'équipe majorité présidentielle et d'autres, de zéro immigration, de taux qui sont impossibles de toute façon. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on vit dans un monde mondialisé. Si on veut une immigration zéro, mais les autres pays seront en droit, par réciprocité, de dire que nous aussi, on va être bloquant aussi sur l'accueil des étudiants étrangers, on va être bloquant sur les échanges. Et on le voit dans la politique de diplomatie africaine, ce qui se passe aujourd'hui avec la France. C'est-à-dire que tout ça, ça a des coûts pour nos armées, pour notre rayonnement, pour notre image. Et l'image des politiques est vraiment, et de la France qu'elle veut porter vraiment en berne, je trouve, et aujourd'hui, on aimerait que ces sujets-là soient vraiment traités de façon sérieuse, parce que c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Voilà.
Sama est attentive. Qu'est-ce qu'elle a jeté sur cette question de stigmatisation, de racisme? Parce qu'un mot sur vous trois, quand même. L'une est d'origine marocaine, l'une est d'origine
comorienne.
Comorienne et l'autre est d'origine
guinéenne-sénégalaise.
Voilà, guinéenne-sénégalaise. Donc on a la diversité sur ce plateau, oui. On a la diversité dans nos quartiers et pourtant il y a stigmatisation. Sama. Quelle est votre révolte à vous sur cette stigmatisation?
Je rejoins un peu, pour faire court, hein, je rejoins un peu tout ce qu'elles ont dit. Ça dévalorise beaucoup, il y a beaucoup de remises en question parfois, se demander est-ce qu'on est au bon endroit, au bon moment. Enfin, ça rejoint un peu sur l'histoire des projets, de pouvoir se lancer. Tout de suite, on avait ce blocage aussi financier, mais on a aussi ce blocage-là, en fait. OK, je veux m'épanouir, je veux développer ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire, ce qui me plaît. Mais voilà, on n'est pas légitime, enfin, on n'est pas...
C'est le sentiment que vous avez quand on est d'origine étrangère.
Quand on est d'origine...
Vous êtes française, mais vous êtes...
C'est ça. Il y a ce blocage, quoi. On a toujours cette image-là de... Enfin, il faut faire plus, il faut se donner plus, parce qu'on est comme ça, et c'est un peu déplorable, quoi.
Le sentiment qu'il faut toujours faire plus pour être à même hauteur que...
C'est ça, pour être à un même niveau. Et pourtant, on est né au même endroit. On est normalement au même pied d'égalité, en fait.
Ça bouge un peu quand même.
Ouais.
Sinon,
ouais,
vous seriez complètement pessimiste.
Ouais, mais on ne serait pas là, surtout, je pense aussi. Mais ouais, il y a des choses à faire, en fait. Il faut que les gens prennent conscience et que, voilà, que les choses bougent, tout simplement.
Bah, les choses bougent, ne serait-ce qu'au niveau politique. Quand il y a des élus issus d'immigration, qui sont français pour être élus, il y a quand même une bonne douzaine de maires issus de l'immigration, maghrébines en particulier, mais aussi d'autres pays, en région parisienne, qui sont quand même à la tête de villes de plus de 52 000 habitants. Quoi. On ne pouvait pas imaginer ça il y a 20 ans.
C'est vrai. Non, il faut reconnaître quand même que, voilà, je vais laisser la place.
Je vais juste ajouter là-dessus que, aussi, donc quand je dis qu'on est on s'est pas traité de façon sérieuse, au niveau européen, on est quand même en deçà des taux de la diversité. Le bilan diversité de cette mandature est catastrophique. On a entre 0 et 0,5% d'élus de la diversité dans les conseils généraux, jusqu'à 3% dans les conseils régionaux et 5% à l'Assemblée. Donc, effectivement, on en a plus. Moi, les anciennes générations me disent, Amina, il faut être super content. On devrait être reconnaissant parce qu'il y a un bond en avant qui est fait. Mais quand on voit en Allemagne ou dans d'autres pays du Nord, c'est des ratios rien à voir. Et c'est des postes régaliens. Alors bon, je veux bien qu'on s'autogratule de ce qui est fait. Il n'y a pas de statistiques sur le reste. On ne peut pas savoir aujourd'hui parce qu'on ne peut pas évaluer. Mais dans politique, il y a des statistiques, c'est des listes nationales, ça reste en préfecture. Donc comment on agit, c'est aussi une interpellation du politique. Comment demain vous agissez pour que la diversité et les diversités, parce qu'il y a pas, il y a diversité dans tous les sens du terme, socio-professionnelle, d'origine et d'ailleurs, soient prises en compte. Il y a des initiatives faites par des acteurs, inclusion économique et d'autres choses qu'on aimerait accompagner. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la cohésion nationale ne soit pas une variable d'ajustement, qu'elle soit vraiment quelque chose auquel s'astreignent tous les candidats à la présidentielle et pas que ce soit une occasion de mettre les uns contre les autres et toujours les mêmes comme par hasard. Voilà.
Et sur cette diversité et sur ce que vous dites du point de vue politique, vous savez, le droit de vote n'existe pas pour les immigrés en France. Il y a 17 pays européens qui ont donné le droit de vote à leurs migrants. Donc on est dans un pays, la France, où encore aujourd'hui, même si dans cette élection présidentielle, comme dans les précédentes, il y a eu des candidats et candidates qui ont été pour, en tout cas, le droit de vote des immigrés au niveau local, Hollande l'était, il a reculé, Mitterrand l'était en 81, il a reculé aussi. Dans cette élection présidentielle, il y a quand même quatre candidats qui sont pour le droit de vote des immigrés. C'est des petits pas, bien sûr qu'il n'y a pas à se réjouir, mais c'est des petits pas importants et il faut le souligner parce que le droit de vote, quand il y aura le droit de vote des immigrés, ça changera la donne.
Ça changera.
Parce que les candidats aux élections présidentielles, quand ils font campagne sur le dos, comme disait Nissa tout à l'heure, sur le dos de l'immigration ou des musulmans, c'est parce que ceux-là ne votent pas.
Exactement.
En partie, pas tous, vous votez parce que vous êtes française. Mais les aînés qui sont toujours immigrés avec un titre de séjour ne votent pas. Donc ça leur va bien de dire que les immigrés, les musulmans, etc., puisque de toute façon, ce n'est pas des électeurs. Ils s'inquiètent plus quand c'est des Français et musulmans. Et ça, c'est quand même important à souligner. Sur vos projets, Banlieusards Attitude, vous faites des rencontres publiques. On va donner rendez-vous à nos auditeurs, nos auditrices. Là.
Oui.
Alors, vous rencontrer, c'est important.
La prochaine réunion publique, elle a lieu dans 78 à Trappes.
Le fief de.
la première, elle a eu lieu à Montreuil. On a appelé Montreuil la capitale de la banlieue. Voilà.
Et du Mali en même temps.
Et là, ça va être le 78 à Trappes. Et c'est le 4 mars, donc à 19h. Pour les personnes qui souhaitent participer, qui sont du 78, ils sont les bienvenus.
Voilà. Alors, vous avez un site. Comment on peut réagir à votre projet s'il y a des auditeurs, des auditrices qui ont envie de vous rejoindre?
On a une page sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. Donc, c'est la page Banlieusards Attitude, tout simplement. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent participer à nos réunions.
Va retrouver sur vos pages, on va retrouver le rendez-vous, le lieu à Trappes, par exemple.
Exactement. D'accord. Voilà. Donc, on les retrouve dessus. Et bon, les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, parce que ça existe, Voilà, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, ils peuvent tout simplement me contacter. Donc, au 07 58 66 26 11. Et je pourrai les informer des prochaines réunions, que ce soit par mail, par téléphone, voilà.
D'accord. Merci Nissa. Merci,
merci Samia.
Amina et merci Sama d'être venue dimanche matin nous présenter les projets de Banlieusards Attitude. Et je crois qu'il faut vous encourager parce que c'est de l'énergie. Et un mot sur l'égalité femmes-hommes et le féminisme. Qu'est-ce que vous vous sentez féministe dans la vie?
Prends le micro,
elle est déterminée.
Féminisme, bon, je ne mets pas les hommes à part, mais voilà, il faut savoir que de base, je suis socio-esthéticienne déjà depuis maintenant 10 ans et que je fais pas mal d'événements autour de la femme, du bien-être pour qu'elle s'émancipe justement, pour redonner confiance, retravailler l'estime de soi, la confiance en soi, pour que voilà, qu'elle réalise un peu, déjà enlever tous les freins qu'il peut y avoir pour qu'elle se réalise dans ses projets, et que ce soit projet personnel ou projet professionnel. Donc voilà, le message que j'ai envie de faire véhiculer, c'est voilà, sortir sa zone de confort. Enfin moi, je suis maman de 3 enfants que j'élève seule, etc., mais qu'il n'y a pas de... Faut pas se mettre des barrages en fait. Il y a toujours des solutions pour tout et faut juste se laisser ouvrir et s'ouvrir au monde et voilà, sortir d'un peu de sa zone de confort et prendre confiance en soi.
Allez, à vous Amina.
Bah oui, féministe.
Une élue féministe. Il y a une délégation droits des femmes dans votre ville?
Non. Alors, je suis pas dans la majorité. Je n'y suis plus parce que je suis présentée contre le maire. Donc non, je n'y suis plus. Mais effectivement, je suis féministe. Je travaille dans l'accessoire associatif effectivement pour engager de plus en plus de femmes, pour la valorisation de leur parcours professionnel, et puis pour la réalisation de projets qui permet aussi de se mettre dans un ancrage où on se réalise quelque part. En fait, on se réalise en faisant du bien et en faisant du bien aux autres. Donc dans l'échange et le partage de savoir et savoir-être. Donc oui, et puis surtout que j'ai des filles aussi, et que je pense que de toute façon, il faut aussi que chacun prenne sa place et demain qu'elles prennent la leur. Voilà.
Nissa ?
Moi, je ne sais pas si je peux dire si je suis féministe ou pas. Moi, je suis plus pour le vivre ensemble, que ce soit pour l'homme ou la femme. L'homme n'est rien sans la femme. La femme n'est rien sans l'homme.
La femme est l'avenir de l'homme, disait Aragon.
Et voilà. Et comme on le dit souvent chez nous, l'avenir de l'homme, avec un grand H, c'est nous les femmes. Voilà. Tout simplement.
Les mots de la fin avec le sourire, toutes les trois. Vous êtes dynamiques et vous avez envie de porter ce projet Banlieusard Attitude. Et je vous souhaite tout le succès possible. Au revoir à toutes.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Voix au chapitre sur Beurre FM.